Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Un 27 militaires ont écopé hier des peines allant de la condamnation à mort à 10 ans de prison en Nord Kivu. Le tribunal militaire de Butembo les a reconnus coupables notamment de fuite devant l'ennemi et de pillage, des faits qui ont eu lieu entre les villages de Kasege et Alimbongo. Le ministre d'État en charge des infrastructures a lancé aujourd'hui à partir de la commune rurale de Mutamba le début de construction de l'asphaltage de la route Kananga-Kalambambouji. Des détails dans cette édition du journal. Et puis l'invité aujourd'hui est le président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo, Mathieu Kamba Londingo, fait le bilan de la session qui vient de se clôturer. Bonjour, ce journal part du territoire de Lubero, Nord Kivu. 25 militaires, dont deux capitaines de FARDC, ont été condamnés à la peine de mort et deux autres à 10 ans de prison ferme hier mercredi par le tribunal militaire de garnison de Butembo. C'était au cours d'une audience foraine organisée à Alimbongo, village situé à environ 100 km de Lubero centre. Ces hommes en uniforme sont reconnus coupables, entre autres, de fuite devant l'ennemi, de violation des consignes également, de pillage. Autre précision avec André Kitenge.
C'est tard mercredi soir que le tribunal militaire a prononcé son jugement après une journée d'audience en flagrance. Parmi les 27 militaires, dont deux officiers poursuivis par la justice, 25 ont écopé de la peine de mort pour fuite devant l'ennemi, dissipation des munitions de guerre, violation des consignes et pillage. Deux autres soldats sont condamnés à 10 ans de servitude pénale principale pour vol qualifié. Les condamnés étaient déployés sur le front nord entre les villages de Kasee et Alimbongo, où les FARDC se battent contre les rebelles du M23. La justice leur reproche d'avoir battu en retraite. Par ailleurs, quatre épouses de militaires qui étaient également jugés pour recel de vol ont été acquittées faute de charge. Signalons que depuis deux jours, la société civile dénonce le comportement de certains militaires qualifiés de fouillards dans le territoire de Lubero. Ils ravissent, selon cette structure citoyenne, les maigres biens des déplacés qu'ils arrivent à emporter avec eux, notamment leur bétail. André Kitenge, Beni Radio Kapi.
Nous restons en Kivu. La situation est redevenue calme après de violentes manifestations des déplacés de guerre dans la matinée au quartier Mugunga. Selon des sources contactées sur place, ces déplacés qui avaient barricadé la route protestent contre l'insécurité et réclament également une assistance humanitaire. Bernard Danyangi nous relate les faits.
Entre 7h et 9h locales, le trafic routier est resté coupé sur la route nationale numéro 2 Gomasaki ainsi que sur la route secondaire menant à Rusayo Dalangiragongo au niveau de l'entrée école du cinquantenaire au quartier Mugunga. Les déplacés de guerre vivant dans un site spontané dans les environs ont placé des barricades sur ce tronçon routier. Les premiers témoignages révèlent que les déplacés protestent contre l'insécurité dans leur site. Hier mercredi, des présumés éléments d'une patrouille militaire auraient arrêté un des leurs et ravi plusieurs biens appartenant à des déplacés. De plus, ces manifestants exigent une assistance en eau et en vivres. Ils ont même bloqué et vidé deux camions citernes des humanitaires qui acheminaient de l'eau au camp de Rusayo dans le Nyiragongo. Le chef du quartier Mugunga indique qu'une équipe mixte FARDC police déployée sur place a réussi à rétablir l'ordre et à dégager les deux axes routiers. Ce cadre de base reconnaît que la situation reste toutefois tendue dans cette zone où, dans la même nuit dernière, un autre déplacé a été tué par des hommes armés inconnus dans le site de Lushagala, ouest du quartier Mugunga. Goma, Bernard Dignang, Radio Kapi.
Merci Bernardin. À propos des violations de droits de l'homme dans l'est du pays, le président de la CNDH fait part à la première ministre de son intention de saisir les instances internationales pour rendre justice à la RDC. Conduisant hier mercredi une délégation de son institution, Paul Sampo et ses collaborateurs ont fait un tour d'horizon sur les conditions de fonctionnement difficiles de la Commission nationale des droits de l'homme. Ils ont évoqué également des questions touchant aux valeurs de dignité humaine liées à la situation d'invasion par des forces négatives. Voici le compte-rendu fait par Paul Sampo au terme de cet échange. C'est dans cet extrait proposé par Jeff Ngoy.
Cette situation de la RDC impacte sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de valeur des dignités humaines, avec tout ce que nous déplorons à l'est du pays où notre pays, la RDC, est attaqué. Et on a parlé de toutes ces questions-là puisque la diplomatie de droits de l'homme peut aussi contribuer en passant par la diplomatie classique a décanté beaucoup de situations. Il y a des enjeux importants au pays et à l'extérieur du pays. Nous devions nous mettre, accorder nos violons avant d'aller à tous ces rendez-vous où nous devons défendre la souveraineté de notre pays, chacun jouant son rôle.
Et toujours à propos des droits des personnes au Sud-Kivu, des femmes continuent à être victimes de l'égoïsme de leurs partenaires hommes. C'est ce que pense en tout cas le réseau des femmes pour le respect du genre RFG dans cette province. Il le dit après le constat fait sur le faible taux de représentativité des femmes dans le gouvernement provincial. Il faut dire que seules 2 femmes font partie de l'exécutif provincial sur les 13 membres qui le composent. Cette structure des femmes l'a dit au cours d'un point de presse tenu hier mercredi à Bukavu. Agnès Sadiki, coordinatrice AI du réseau des femmes pour le respect du genre, exprime ici l'étonnement des femmes dans cet extrait que nous propose Rachel Kisimbangu.
Fort malheureusement, à notre grande surprise désagréable, nous venons encore de constater que sur 13 membres qui constituent le gouvernement provincial, aujourd'hui, il n'y a que 2 femmes. Nous comptons sur les pouvoirs discrétionnaires de son Excellence Monsieur le Gouverneur, afin qu'il puisse corriger, nous appelons ça, c'est une erreur constitutionnelle. Parce que les pays d'ailleurs qui ont pu associer les femmes à la gestion, ces pays-là ont sincèrement émergé considérablement. Et donc, nous, au niveau du Sud-Kivu, au lieu qu'on avance, on est en train de connaître des reculs considérables. Et au niveau du réseau, on s'est dit, il faut qu'on osse la voix et recommander à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, à pouvoir voir si, dans la mesure du possible, au sein de son cabinet, parce qu'il est en train de mettre en place aujourd'hui son cabinet, demain, ça sera les cabinets ministériels et les autres services dont il a la compétence. Je pense que c'est possible encore de rectifier les tirs.
Nous sommes au centre du pays. Le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, ITPR, a lancé hier mercredi à partir de la commune rurale de Mutamba le début de construction et d'asphaltage de la route Kananga-Kalambambouji. Ces travaux s'exécutent grâce au contrat sino-congolais revu à travers un avenant signé entre le gouvernement congolais et le groupement des entreprises chinoises JEC. L'axe Kalambambouji fait partie des routes prioritaires qui ont été ciblées. François Kadima nous en dit plus.
Ces travaux s'étalent sur 24 mois et environ 20% des fonds sont déjà disponibles, a indiqué le ministre des ITPR. Alessi Guissaro souligne que cette fois-ci c'est la bonne pour cette route d'intérêt économique pour l'espace Kasaï.
Les fonds sont déjà disponibles et sécurisés dans nos banques. Nous avons déjà mobilisé 40 millions de dollars américains pour ces travaux. Cela équivaut à 20% sur le coût total du montant alloué au projet.
Ils allaient déjà financer.
Du côté des groupes d'entreprises chinoises, l'on assure que les engins sont déjà mobilisés pour l'exécution de ce travaux.
Nous avons déplacé les engins nécessaires de Kolwezi, Tidiof et de Kinshasa pour assurer le déroulement ordonné du projet. Comme le projet est situé à l'intérieur du pays, les routes existantes présentent de nombreuses défectuosités, sont difficiles à franchir.
Les mêmes travaux avaient été lancés en 2022 par le chef de l'État et n'ont pas évolué faute de financement. De plus de 200 km, la route Kananga-Kalambambouji facilite les échanges commerciaux entre la RDC et l'Angola. Elle permet d'accéder à l'océan Atlantique à partir du port de Lobito. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Au Kassa Oriental, notez le début mercredi d'une série de formations sur l'égalité de sexe, l'engagement communautaire et la redevabilité en nutrition. Des formations qui sont organisées par le Programme Alimentaire Mondial PAM en faveur des membres de la société civile, des partenaires étatiques, des organisations internationales et des agences du système des Nations Unies. Le but est de valoriser l'égalité des sexes dans les activités en nutrition. Explication Esther Dalafina.
Selon les constats effectués dans quelques centres nutritionnels, 5 femmes sur 10 et 7 enfants sur 10 souffrent de la malnutrition. Très peu, soit un homme sur 10, se retrouvent malnutris. Au cours de la formation organisée ce mercredi en Bujimaï par le PAM, les participants ont donné quelques causes liées à la malnutrition. C'est notamment l'existence des tabous alimentaires en direction des mères et des adolescentes, la non prise en compte de la dimension genre et l'accompagnement insuffisant uns des hommes. Dans le cadre de la communication pour le changement de comportement sur des questions nutritionnelles, Prosper Bété, chargé de protection au PAM, s'est appesanti sur l'engagement de toutes les couches de la communauté. Rose Mbouyi, présidente de la société civile Les Forces Vives, prévoit de mener des sensibilisations auprès des communautés.
Nous allons pouvoir sensibiliser les hommes et les femmes pour que vraiment qu'il y ait l'égalité entre les hommes et les femmes par rapport à la nutrition.
C'est le cas de Jean-Marie Kachila, journaliste à la radio-télévision Océan Pacifique, qui envisage d'utiliser son micro pour sensibiliser la communauté.
Donc je vais utiliser le micro, la télévision pour faire une forte vulgarisation.
Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
À Bukavu, le feu a encore fait des dégâts. Environ 400 ménages sont sans abri dans 4 avenues du quartier Nalukimba, dans la commune d'Ibanda. C'est après l'incendie qui a décimé leur maison. Le feu s'est déclaré hier pendant la journée jusqu'au tard dans la soirée, sans aucune intervention. Jean Kassami nous fait le point.
Le feu a même consumé des infrastructures publiques comme les écoles et les églises dans les avenues Hewabora, Evariste Baganda, Irambo 2 et Albert Kayabo 5. Le maire de Bukavu, qui s'est rendu sur les lieux, déplore la gravité de l'incendie. Zeno Karumba atteste que le camion anti-incendie de la commune d'Ibanda a tenté de venir au secours, mais l'équipe n'a pas réussi à trouver de passage.
Il n'y a pas de route. Vous allez intervenir par le véhicule anti-incendie, sans route. Il n'y a pas de route. Elle est en construction par les forces sociales. Là, il y a 4 pots détruits qu'on est en train de réfectionner. Il n'y a pas de passage pour l'anti-incendie. Le véhicule anti-incendie que l'honorable Bati Lukwebo avait laissé à la ville de Bukavu a été dissoué par commune. Donc chaque bourgmestre a eu un véhicule anti-incendie. La mairie n'a rien comme véhicule anti-incendie.
Les familles sinistrées observent impuissants en attente de mains secourables car ayant tout perdu. Le bourgmestre de la commune d'Ibanda a remis ce jeudi quelques sacs de farine et du sucre aux sinistrés pour préparer la bouillie aux plus vulnérables. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Les États-Unis continueront à être aux côtés du peuple congolais pour renforcer notamment les systèmes de santé et protéger l'environnement. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, à l'occasion du 248e célébration de la 248e célébration de l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis célébrée le 4 juillet. L'ambassadeur est revenu par ailleurs sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les États-Unis, a-t-elle dit, s'engagent à utiliser leurs outils diplomatiques et leur influence pour promouvoir le dialogue et permettre au processus de Luanda de porter ses fruits. Suivez cet extrait de sa déclaration recueillie par Martin Sibujangwe.
Conscient de l'urgence de trouver des solutions pacifiques aux multiples conflits dans l'est de la RDC, les États-Unis sont engagés à utiliser leurs outils diplomatiques et leur influence pour promouvoir le dialogue et permettre le processus de Luanda de porter ses fruits. En cohérence avec les valeurs et la générosité de son peuple, les États-Unis continueront à être en première ligne pour fournir l'assistance dont ont besoin des millions de déplacés en RDC. Comme l'ont prouvé les élections de 2023, malgré tous les défis, le peuple congolais est désireux d'aller de l'avant. Il travaille pour une RDC stable et prospère, où la dignité humaine et l'état de droit sont respectés.
Pour sa part, la vice-ministre de la RDC, chargée des affaires étrangères, a à cette occasion plaidé pour des sanctions contre le Rwanda. On l'écoute dans cet extrait recueilli également par Martin Sibujangwe.
La République démocratique du Congo est victime des visées prédatrices des puissances de ce monde qui se servent de notre voisin, le Rwanda pour ne pas le citer, qui par une convoitise gratuite se livre au pillage de ses minerais. Par l'entremise de ses supplétifs, le M23 et les autres forces négatives qui sévissent l'est de la RDC. En effet, la République démocratique du Congo reste persuadée, au regard de la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qu'il est souhaitable d'éveiller davantage à la consolidation de nos relations et au partage de valeurs de paix et d'équité entre nos deux pays. valeur qui ne pourrait mieux s'exprimer que si et seulement si les États-Unis d'Amérique condamnent fermement et bien plus sanctionner le Rwanda par des sanctions plus concrètes et coercitives.
Actualité internationale.
En Mauritanie, le délai de 48 heures pour déposer les recours contre les résultats de l'élection présidentielle tenue samedi a expiré ce mercredi 3 juillet au soir. Le Conseil constitutionnel doit désormais valider les résultats officiels provisoires. Dans ce pays, en cas de contestation, chaque candidat peut saisir le Conseil constitutionnel par écrit, voire par téléphone, dans un délai de 48 heures maximum. Ce délai qui courait jusque depuis la fin des opérations de vote samedi s'est donc écoulé ce mercredi soir. Au final, aucun candidat n'a déposé de recours.
L'invité.
Dans la Chopo, la session ordinaire de mars 2024 s'est clôturée le 28 juin dernier. Les députés provinciaux sont en vacances pour communier avec leurs bases respectives. Le bilan de cette session est-il satisfaisant? Et quelle lecture l'Assemblée provinciale de la Chopo fait-elle de la déclaration du gouverneur de province de ne vouloir créer aucune crise entre les deux premières institutions provinciales? Nous recevons le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Dr Mateus Kanga Londimo, s'entretient avec Jacques Mukonkole.
Docteur Mathéus Kanga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La session ordinaire de mars 2024 venait de se clôturer. Quel bilan pouvez-vous en établir?
Oui, merci beaucoup. La session de mars a été clôturée le 28 juin 2024. C'est un bilan plus ou moins satisfaisant parce que c'est la totalité des matières prévues. Nous avons pu traiter les deux tiers des matières au-delà des activités extra-parlementaires qui consistaient notamment à l'audition des candidats gouverneurs et sénateurs où nous avons eu plusieurs séances durant 3 jours. Durant la même session, nous avions élu notamment les sénateurs et les gouverneurs. Et aussi, nous avons mis en place les différents organes de l'Assemblée provinciale. Toutes ont été mises en place. Et au-delà de ça, nous avons joué durant cette session les rôles qui nous sont dévolus par les textes légaux, notamment celui de légiférer. Nous avons voté un édit portant création, organisation et fonctionnement de la fonction publique provinciale. Nous avons plusieurs moyens de contrôle ont été initiés par les honorables députés provinciaux et traités, notamment 5 moyens de contrôle qui ont consisté aux questions orales adressées aux ministres provinciaux. Puis d'autres préoccupations également qui ont été traitées, notamment celui de représenter la population. Et puis les bureaux a eu beaucoup d'autres activités. Donc, si les 100% des matières prévues, des tiers, soit plus de 70%, ont été traités.
Monsieur le Président, pourquoi dites-vous que vous êtes à moitié satisfait?
Je suis à moitié satisfait parce que mon vœu le plus ardent, c'était que nous puissions traiter les 100% des matières prévues. Mais nous avons eu notamment certaines contraintes qui ne nous ont pas permis. D'abord, les contraintes du temps et des matières prévues qui étaient énormes, mais aussi les contraintes d'ordre financier parce que nous avons des difficultés d'ordre financier qui ne nous ont pas permis de programmer certaines matières parce que les travaux en commission coûtent énormément cher. Donc, c'est dans ce sens-là que je me dis à moitié satisfait parce que la barre était hautement placée. Nous n'avions pas pu atteindre cette barre.
Monsieur le Président, lors de sa prise de fonction samedi dernier, le gouverneur de province a déclaré ne pas vouloir se constituer un obstacle pour le décollage de la province de la Chopo. Pour cela, il ne créera aucune crise avec les autres institutions, notamment l'Assemblée provinciale. Comment avez-vous reçu ce message?
C'est un message que nous avons bien reçu parce que nous nous sommes dit que le gouverneur a aussi compris notre message. Vous savez, même nous-mêmes, quand nous étions élus, notre vision était centrée sur la stabilité des institutions provinciales, gage du développement de la Chopo. Et quand le gouverneur s'inscrit dans cette logique-là, nous ne pouvons que saluer avec espoir que ça ne restera pas des simples intentions, des bonnes intentions, mais nous allons tous mettre cela en pratique au travers d'une bonne collaboration entre les deux institutions pour le développement de notre province, parce qu'on ne peut pas espérer au développement là où il y a des institutions instables, là où il y a la guerre indéfinie entre les autorités provinciales, entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. On ne peut pas espérer au fait au développement. C'est dans cette optique-là que nous avons pu saluer et nous faisons croire que nous, déjà nous sommes inscrits dans ces schémas-là, nous allons de ce fait cheminer ensemble avec le gouverneur qui aussi voudrait assez que nous puissions travailler en collaboration.
Les députés provinciaux se trouvent présentement en vacances parlementaires. Chacun est allé dans sa base. Qu'attendez-vous d'eux à leur retour.
D'abord, nous leur avons demandé d'aller restituer ce que nous avons pu faire pendant cette première session de la troisième législature, la session de mars, et aussi aller communier avec la base, savoir leurs problèmes, récolter leurs déshydratants, envie de faire rapport à l'issue de leurs vacances.
Bientôt, le gouverneur des provinces va venir à l'Assemblée provinciale présenter les membres de son gouvernement. Quelles recommandations pouvez-vous par rapport aux priorités des priorités, sachant que tout est prioritaire dans cette entité, et par rapport même à la composition de son gouvernement?
Mais d'abord, par rapport à la composition du gouvernement, tout est défini par la Constitution, où les membres du gouvernement, l'équipe ne doit pas dépasser 10. Notre vœu serait aussi que le gouverneur puisse respecter ces dispositions de notre Constitution qui limitent le nombre de membres de son équipe à 10. Et au-delà de ça, pour les priorités, je crois que les priorités pour la province de la Chopo sont connues. Actuellement, la province traverse des moments difficiles, suite notamment aux conflits communautaires Lengolambole, et cette menace d'M23, des Corneille Nangaïs, en train de menacer pratiquement la province de la Chopo. Donc la première priorité, c'est la sécurité, que le gouvernement provincial inscrive la sécurité parmi ses priorités des priorités, parce que la population de la Chopo a besoin de la paix. La deuxième priorité sera notamment les infrastructures de base, entre autres les routes, et aussi bien au niveau de la voirie urbaine que les routes des dessertes agricoles. Et au-delà de ça, il y a notamment cette question de l'énergie. L'énergie avec cette problématique de l'électricité dans la ville de Kisangani. Si le gouverneur réussit déjà ces trois chantiers, je pense que ce sera une bonne chose.
Dr Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Merci également à vous, Jacques Moukonkole. Fin de ce journal avec Blaise Chindani Kambala et Martin Sibujango, la coordination et supervision, Jean-Noël Moukondo à la technique. Merci à vous tous qui nous avez suivis.